Merci d'écouter RFI, 3h30 en temps universel, il est 4h30 ici à Paris.
Arthur Ponchelet.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Afrique Matin qui commence 30 minutes pour faire le tour de l'actualité du continent. À la une ce matin, il doit rencontrer les soldats de la MONUSCO sur place. Jean-Pierre Lacroix est à Beni, ville du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Avant cela, le numéro 2 de l'ONU s'est entretenu avec Félix Tshisekedi et la première ministre congolaise. La RDC et cette plainte contre Apple classée en partie par le tribunal judiciaire de Paris. Action en justice de Kinshasa contre ce qu'elle qualifie de minerai de sang dans les appareils électroniques. On entendra la réaction de l'un des avocats de la RDC. Au sommaire également, la famine, le manque d'eau et les maladies dans les camps de déplacés au Soudan. Et puis le début du Ramadan ce week-end pour les musulmans du monde entier. Aux Comores, ce mois sacré s'accompagne d'une polémique autour de la réduction du temps de travail. C'est une visite très attendue après un bref séjour à Kinshasa où il a rencontré Félix Tshisekedi et la première ministre congolaise. Le numéro 2 de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, était à Beni hier après la prise de Goma par l'AFC M23 fin janvier. C'est dans cette ville du Nord Kivu qu'a été relocalisé le gouverneur militaire. Des casques bleus y sont également stationnés. Lisa Fabian, que sait-on de cette visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies ?
La visite de Jean-Pierre Lacroix à Beni ne devrait pas durer plus de 24 heures. Le numéro 2 de l'ONU devrait notamment y rencontrer des soldats de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de l'organisation qui y est basée. Le quartier général de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO y est également implanté. Contrairement au reste de la force, cette composante est autorisée à engager des actions militaires offensives. Mais aujourd'hui, c'est l'action diplomatique qui semble privilégiée pour résoudre le conflit. À la sortie de sa visite avec la première ministre à Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix a notamment déclaré que la mission pourrait être utilisée pour assurer le suivi et le respect du cessez-le-feu réclamé par plusieurs instances occidentales et africaines. La présidence congolaise plaide quant à elle pour un renforcement des effectifs de la mission de maintien de la paix à MONUSCO dans certaines zones dites sensibles, alors qu'en juin dernier, la MONUSCO s'était retirée du sud Kivu sur demande de Kinshasa.
Lisa Fabian, pas de visite prévue en revanche auprès des soldats ougandais, ils sont également présents sur le territoire de Beni. Alors que l'Ouganda a renforcé sa présence militaire dans ce secteur depuis un mois. Toujours sur la situation dans l'est de la RDC, la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de la SADC et l'EAC, les organisations régionales d'Afrique australe et de l'Est, a été reportée. Elle était prévue hier. Objectif, examiner le rapport des chefs d'état-major des forces de défense de l'EAC. Rapport dont les détails sont à retrouver sur RFI.fr. L'actualité en République démocratique du Congo et cette plainte déposée en décembre dernier contre Apple en France et en Belgique. Kinshasa accuse le géant de la tech d'acheter des minerais extraits de son sol mais illégalement transférés vers le Rwanda. Accusation niée par la firme à la pomme qui affirme avoir informé ses fournisseurs qu'il devait, je cite, suspendre l'approvisionnement en étain, tantale, tungstène et or en provenance de la RDC et du Rwanda. Cette plainte, donc, de la RDC a été classée en partie par le tribunal judiciaire de Paris le 18 février dernier. Écoutez la réaction de l'un des avocats de la RDC, maître William Bourdon.
Ce que font le parquet de Paris dit, c'est sur les infractions de tromperie, de blanchiment en classe, mais que pour toutes les infractions de recel et blanchiment de crimes internationaux comme des crimes de guerre, voyez, avec le parquet national antiterroriste, donc c'est important de souligner que donc il n'y a pas eu un classement complet, total de la plainte. Il y a un classement tout à fait partiel et qui laisse absolument intacte la possibilité d'engager des poursuites, d'ouvrir une enquête, et ça suppose évidemment un dialogue avec le parquet national antiterroriste, le sous-pôle crimes internationaux qu'on va initier prochainement. Pour que tout le monde comprenne bien, il s'agit d'une plainte assez inédite, extraordinairement documentée, solide, avec selon nous une démonstration implacable, mais en même temps c'est nouveau. Donc c'est pas un drame dans la forêt si du côté du parquet, ce que je considère une forme de frilosité, de timidité judiciaire. On a encore beaucoup d'outils à notre disposition. Cette histoire judiciaire qui vient de s'ouvrir, elle en est qu'à ses débuts. Nous avons pour nous le droit, la détermination et un dossier extraordinairement solide.
Maître William Bourdon avec Charlotte Cossel et Conseil affirment également réfléchir à des procédures dans d'autres territoires où le groupe Apple a des filiales importantes et contre d'autres cibles du monde de la tech. C'est l'un des conflits les plus meurtriers au monde et il se déroule presque en silence, en l'absence quasi totale de réaction internationale. La guerre civile au Soudan, des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et la famine qui touche près de la moitié de la population. Sur place, la situation se dégrade, notamment autour de la ville d'El Fasher, encerclée depuis 10 mois par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Dans les camps de déplacés qui entourent la capitale du Darfour Nord, jamais la situation n'a été aussi dramatique. Ouda Ibrahim, c'est le cas notamment dans le camp d'Abou Chok, à 4 km d'El Fasher.
On estime à 800 000 le nombre de personnes déplacées qui se trouvent à Abou Chok aujourd'hui. Ils vivent dans des conditions sanitaires intenables. Mohamed Adam Abdul Latif, représentant des déplacés du camp d'Abou Chok, décrit l'abîme vécu par les habitants qui ont été déplacés à plusieurs reprises ces derniers mois et qui préfèrent désormais ne plus bouger.
C'est très difficile de décrire la vie dans le camp et dans l'ensemble du Darfour Nord. La population n'a plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Ce que vous avez cultivé a été consommé il y a bien longtemps. Et même si vous allez demander de l'aide à vos voisins, vous vous rendez compte qu'ils sont eux-mêmes dans la même situation, voire pire, et qu'ils n'ont rien à manger. Ce qui tient les gens en vie, c'est l'ombasse, les restes de cacahuètes après leur pressage pour faire de l'huile. Maintenant, nous donnons la priorité aux personnes vulnérables. 60% des habitants du camp sont arrivés récemment et leur arrivée a augmenté nos difficultés.
La surpopulation au camp d'Abou Chok provoque une crise alimentaire, une crise de l'eau et une augmentation des maladies. Tout cela alors que les ONG d'aide humanitaire quittent le Darfour du Nord en raison de violences intenses.
Ouda Ibrahim, sur le plan politique pendant ce temps, l'Arabie Saoudite a condamné hier la création d'un gouvernement parallèle. Les paramilitaires et leurs alliés ont signé une charte fondatrice cette semaine. Riyad dit rejeter toute démarche prise en dehors des institutions officielle du Soudan. Le Qatar a lui aussi appelé à l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan. 3h37 en temps universel. Madagascar, balayé par un cyclone tropical depuis hier. Ondé, c'est son nom, longe les côtes sud du pays et charrie avec lui des vents violents et des pluies diluviennes. Résultat, des rivières sont sorties de leur lit, notamment dans les villes de Morondova et Tuléar. Correspondant sur place, Guillaume Fabry.
Le cyclone tropical Ondé n'a pas fait de victimes, mais plus de 17 000 personnes ont vu leur maison inondée dans les régions de Latsimandjrefan et de Menabe dans le sud-ouest de Madagascar. Olivier Andriakadzaelak, directeur du Bureau national de gestion des risques et catastrophes.
Il a provoqué des dégâts sur l'infrastructure, les habitations et les cultures surtout. Il y a des maisons qui sont complètement détruites. Il y a aussi la route nationale qui relie donc à Tuléar, à Ompani. C'est presque impraticable en ce moment.
Rivo Ranjanarisson, prévisionniste en chef à Météo Madagascar, indique que le cyclone Ondé est plus grand en taille que les autres systèmes signalés habituellement dans la région, ce qui renforce le vent et les précipitations. En mer, les vagues ont atteint 8 mètres de hauteur.
Actuellement, le système il ralentit son déplacement. Donc ça, c'est mauvais signe, puisque plus le système il traîne longtemps sur un endroit, ça augmente le risque d'avoir des cumuls de pluie assez conséquents. Il va falloir vraiment attendre le cours d'après-midi de ce samedi pour que le système, on l'espère, va progressivement s'éloigner des côtes sud.
Malgré les dégâts importants qu'elles provoquent, les pluies abondantes tombées ces derniers jours dans le grand sud de Madagascar sont aussi un soulagement pour la population confrontée à des sécheresses récurrentes. Guillaume Fabriant, Tananarive, RFI.
Et d'après Météo Madagascar, le cyclone doit bifurquer vers le sud et s'éloigner de la grande île à partir de la mi-journée. On vous en a parlé tout au long de la semaine sur RFI. Le sommet Finance en commun, c'était au Cap, en Afrique du Sud. La plupart des banques publiques de développement étaient sur place. 2500 personnes réunies pour parler coopération en matière de santé ou d'éducation. Valentin Hugues, que faut-il retenir de ce rendez-vous ?
Pendant ce sommet, le Fonds international de développement agricole, le FIDA, a signé un accord de principe avec la Banque de développement d'Afrique australe, Alvaro Lario, président du FIDA.
L'objectif, c'est de travailler ensemble pour construire des infrastructures. Les petits exploitants agricoles ont besoin d'irrigation pour l'agriculture, d'un accès au marché, c'est-à-dire d'un financement. Ils ont besoin d'une route bien tracée.
C'est l'illustration de cette collaboration voulue par le sommet en réunissant la plupart des banques publiques de développement du monde entier et différents partenaires. Dina Amutumwa fait partie de la délégation de la Banque de développement namibienne.
Le plus important, c'est que nous avons eu des réunions bilatérales avec des partenaires que nous n'avions jamais eu l'occasion de vraiment rencontrer. Maintenant, la priorité, c'est que localement, on réfléchisse à comment soutenir directement nos propres populations pour élaborer nos programmes sociaux et cesser de dépendre de l'aide étrangère.
Collaborer plutôt que dépendre, voilà le mot d'ordre. Pour lutter contre des défis de taille comme le réchauffement climatique, Moubarak Moukaïla, responsable climat de la Banque de développement d'Afrique de l'Ouest.
Nous avons une zone qui est l'une des plus pauvres au monde. Et donc nous avons besoin de trouver des solutions adaptées au financement. Nous mobilisons énormément de ressources sur le marché auprès des partenaires. Je pense qu'aujourd'hui nous avons consolidé nos rapports avec les partenaires.
Ce sommet Finance en commun, tout comme une réunion du G20 qui a eu lieu en même temps, a rappelé l'importance du multilatéralisme. Valentin Hugues, Le Cap, RFI.
L'actualité sur le continent, c'est aussi le début du Ramadan ce week-end. La date exacte varie selon les pays. Il commence dès aujourd'hui en Guinée, par exemple, mais demain au Sénégal ou aux Comores, Moroni, où en ce mois sacré, les horaires de travail de la fonction publique sont aménagés, ils sont légèrement raccourcis. Une mesure justifiée par des considérations religieuses, mais aussi sociales et économiques. Mais à l'heure où la productivité est en berne aux Comores, cette réduction ne fait pas l'unanimité. Correspondance à Moroni, d'Abdallah Mzembaba.
Cette réduction hebdomadaire du temps de travail de 5 heures est assumée et défendue par le directeur général de la fonction publique, Omar Chehani.
Le ramadan n'est pas seulement de la religion, mais ça a aussi un contexte social, un contexte économique même. C'est pour permettre aux travailleurs de l'État de bénéficier de tout cela. Nous avons l'habitude de rompre le jeûne en famille. Il y a ceux qui n'habitent pas à Moroni. Ça leur donnerait le temps de retourner faire cette rupture en famille.
Si la mesure semble faire consensus, des représentants du patronat s'inquiètent des conséquences sur la productivité. Hamid Mhoma est un représentant du patronat.
Cette décision de réduire les horaires de travail risque d'aggraver la baisse de la productivité, déjà éprouvée d'une part par une période très difficile d'instabilité énergétique et d'autre part par le fort absentéisme des salariés hors mois de Ramadan. Le caractère sacré du mois fait que tout le monde se tait.
Mais pour Salim Souleymana de la Confédération des travailleurs, il n'y a pas matière à débat. Selon lui, l'impact de cette mesure sur le travail est minime. Pour lui, les gens sont davantage fatigués pendant cette période. L'adaptation du temps de travail est donc logique à ses yeux. Abderrahim Zembaba Moroni, RFI.
Moroni, où il est 6h42, 3h42 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI. Arthur Ponchelet.
Voilà pour le journal. Restez avec nous dans les prochaines minutes. Entre spiritualité et divertissement numérique, comment fête-t-on le Ramadan au Sénégal? C'est la question au cœur d'une étude de l'Institut de sondage Ipsos que l'on décortique avec notre invité. À peine un mois après son retour fracassant à la Maison-Blanche, quelle stratégie pour Donald Trump en Afrique? On en parle avec nos confrères de Jeune Afrique. Et puis, Venise, ses intrigues amoureuses, ses ruses et ses quiproquos. On plonge dans les coulisses du célèbre opéra Le Carnaval de Venise avec Carmen Lunzmann. Mais d'abord, direction la Centrafrique. Là aussi, la communauté musulmane s'apprête à entrer dans le mois de Ramadan et pour être prêt à jeûner pendant un mois, les fidèles de Bangui, la capitale, ont passé ces derniers jours à boucler leurs préparatifs. Reportage dans le quartier du PK5 de Rolf-Steve Domielleux.
Sous la véranda de sa maison, Nafissatou est entourée de ses filles en pleine causerie, toutes vêtues de hijab. En prévision de ce mois sacré, la jeune dame a commandé les aliments de base comme le riz, les dattes, le couscous, l'huile ou encore le sucre.
Pendant le ramadan, au petit déjeuner ou au moment de rompre le jeûne, nous consommons des dattes, puis mangeons la bouillie chaude ou le thé. Pendant le ramadan, nos courses sont limitées, c'est pourquoi je fais la réservation de tous les produits nécessaires. C'est important de ne pas faire trop de travaux ménagers ou de courses pour éviter la fatigue.
En face de sa maison, un atelier de couture. L'accueil est chaleureux. trois machines à coudre sont posées sur deux grandes tables et derrière l'une d'entre elles, Mustapha confectionne des tenues de cérémonie.
J'ai reçu de nombreuses commandes et tout doit être prêt avant la fin du Ramadan. Ici, on ne confectionne que des habits pour musulmans. On doit être efficace pour respecter les délais. Si tout se passe bien, nous allons remercier Dieu.
À quelques rues de là, chez elle, Khadija gomme avec attention son visage. Prendre soin d'elle, c'est, dit-elle, une façon de se préparer à entrer dans ce mois de spiritualité.
J'ai déjà acheté de nouvelles nattes, des chapelets, un livre de prière. Notre quotidien sera partagé entre la maison et la mosquée. Nous allons prier pour le pays et pour nos frères qui sont à l'hôpital ou en prison. Comme vous voyez, je me fais belle pour avoir un esprit léger, sans pression, pour commencer un bon mois de Ramadan.
Ramadan, mois de solidarité, de grâce, mais aussi de grandes dépenses. Pour contrôler certains commerçants qui augmentent volontairement les prix, les autorités du 3e arrondissement ont pris des mesures. Amadou Roufaï est conseiller municipal.
Qu'il soit raisonnable, donner un prix favorable. Nous vivons un temps où il y a une crise économique là qui sévit. Mais au moins faciliter à ces pauvres musulmans-là de passer le mois du Ramadan dans la facilité pour demander à Dieu que notre pays puisse se développer.
Ici au PK5, beaucoup de chrétiens et animistes souhaitent un bon mois du Ramadan aux fidèles musulmans comme signe de cohabitation pacifique. Rolf Steve Domialeux, Bongui, RFI.
Les musulmans se préparent donc en Centrafrique avec, on vient de l'entendre, donc des dépenses qui augmentent parfois. C'est le cas aussi au Sénégal. Dans le pays, comment se prépare-t-on à vivre les semaines à venir? Pour le savoir, Ipsos, l'institut de sondage, a réalisé une grande enquête à ce sujet entre nouvelles technologies et nostalgie des grands rassemblements de familles. Cette enquête dresse un portrait statistique des jeûneurs sénégalais. On en parle avec notre invité ce matin, Georgette Angela Diouf, l'une des responsables d'Ipsos Sénégal. Elle répond aux questions de Laurent Corot.
Bonjour Georgette Angela Diouf.
Bonjour Laurent.
Le Ramadan est avant tout un moment de spiritualité pour les croyants musulmans. Votre enquête le montre bien. 94% des personnes que vous avez interrogées considèrent ce mois comme une période de réflexion spirituelle profonde et de dévotion religieuse intensifiée. Mais il y a également une grande diversité dans la façon de vivre ce mois sacré et vous avez établi grâce à ce sondage 5 profils types. La catégorie qui est la plus représentée dans ces profils types, ce sont ceux que vous appelez les explorateurs de contenu. Alors, qui sont-ils, ces pratiquants qui sont adeptes du numérique?
Alors, ce groupe d'explorateurs de contenu, constituant 43% des répondants, est principalement composé de Sénégalais de moins de 45 ans, en majorité des femmes, qui utilisent activement les réseaux sociaux à la découverte de contenus ou programmes liés au Ramadan, mais aussi qui apprécient les sketchs sénégalais, spécialement diffusés durant ce mois, souvent centrés sur le thème du Ramadan, avec une touche quand même humoristique, qu'on apprécie tous d'ailleurs. Donc, cela crée un équilibre entre spiritualité et divertissement numérique.
Il y a donc cette curiosité sur les contenus. Il y a aussi la conviction chez la plupart des personnes que vous avez interrogées que le Ramadan, eh bien, c'est aussi un moment de discipline physique, un moment où on fait attention à soi.
Oui, en effet, cette proportion représente 88% des Sénégalais interrogés qui profitent du jeûne pour adopter une alimentation plus saine en réduisant leur consommation de café, de tabac, etc. Et certains augmentent même leurs activités physiques après la rupture du jeûne. Comme on le voit ici à Dakar, il y a beaucoup de gens qui sortent la nuit pour faire du sport le long de la corniche ou du football, voilà, au niveau des terrains de foot public.
Alors, vous évoquez à l'instant les gens qui sortent le soir pour faire du sport. Un des changements importants au quotidien que vous pointez dans cette enquête, c'est que pendant le mois de Ramadan, les Sénégalais déclarent moins dormir que le reste de l'année.
Oui, le rythme de sommeil est fortement impacté parce que beaucoup de Sénégalais rattrapent, disons, leurs activités de la journée le soir. Près de la moitié des Sénégalais l'ont affirmé, ont dit qu'ils dorment beaucoup moins, notamment les hommes et les personnes âgées de 45 ans et plus. Cela s'explique aussi par les prières nocturnes, les dîners souvent tardifs, le réveil matinal pour le repas de 4h voire 5h du matin, que l'on appelle communément ici au Sénégal le khed, et la prière matinale.
Alors le Ramadan, c'est aussi un temps fort dans la vie économique du pays, puisque c'est un moment où les personnes disent consommer plus, et ça, votre enquête le montre aussi.
effectivement, 82% ressentent que le ramadan est de plus en plus commercialisé, car nous avons une surcharge de publicité au quotidien, que ce soit à la télé ou les panneaux publicitaires et partout. Et parallèlement, nous avons 85% des Sénégalais qui déclarent dépenser davantage pendant cette période, à savoir la charcuterie, les produits laitiers, le café, etc., avec des magasins et des supermarchés qui sont souvent débordés. Donc, d'un côté, les gens sont conscients de cette commercialisation croissante et de l'autre, ils participent eux-mêmes à cette augmentation de la consommation à travers leurs achats.
Ils en sont des acteurs, finalement.
Exactement, oui.
Le ramadan, c'est aussi la famille. Et l'un des aspects intéressants de votre enquête, c'est que, en dépit de la multiplication des offres commerciales pour la rupture du jeûne dans les restaurants, eh bien, pendant le ramadan, les Sénégalais déclarent sortir moins que le reste de l'année. Ils font plutôt la rupture du jeûne à la maison.
Effectivement, l'étude confirme que 57% des Sénégalais ont tendance à rester davantage chez eux en famille. Certains regrettent quand même cet esprit du ramadan qui s'estompe avec le temps, avec moins de rassemblements pour la rupture du jeûne. Ici, le ramadan est associé, disons, à la nostalgie et au renforcement des liens familiaux.
Merci Georgette Angéla Diouf.
Georgette Angéla Diouf, l'une des responsables d'Ipsos au Sénégal avec Laurent Corot, entretien à réécouter sur RFI.fr. 3h50 en temps universel, l'actualité internationale de ce samedi 1er mars et ses éclats de voix en Mondovision. Une vive dispute a éclaté hier dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, dispute entre Volodymyr Zelensky d'une part, Donald Trump et J.D. Vance de l'autre, devant les caméras du monde entier. Le président américain accueillait son homologue ukrainien dans l'espoir de signer avec lui un traité sur l'exploitation des minerais. Le vice-président américain a reproché au président Zelensky de se montrer irrespectueux envers les États-Unis. Le dirigeant ukrainien a fini par quitter la Maison-Blanche sans conférence de presse ni signature de traité. Il assure finalement que sa relation avec Donald Trump survivra à cette empoignade, tandis que le dirigeant américain fait valoir qu'il pourra revenir quand il sera prêt pour la paix. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la fin aujourd'hui de la première phase de la trêve à Gaza, celle qui a permis ces dernières semaines la libération de plusieurs otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Le secrétaire général des Nations Unies demande que cet accord tienne encore dans le temps, alors que des doutes subsistent sur l'ouverture de la deuxième phase. En théorie, elle doit s'ouvrir demain et déboucher sur une fin totale de la guerre et le retrait des troupes israéliennes de l'enclave palestinienne. Les négociations se poursuivent toujours au Caire entre des diplomates israéliens et des pays tiers, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Et puis la 50e cérémonie des Césars hier et Emilia Pérez qui emporte la part du lion, 7 statuettes pour le film de Jacques Audiard, dont celle du meilleur film. Comme tous les samedis, on parcourt la une du journal Jeune Afrique. Son directeur de la rédaction, François Soudan, est au micro de Catherine Potet.
À la une de Jeune Afrique, Donald Trump et l'Afrique, un continent auquel le président américain ne s'était guère jusque-là intéressé. Il ne s'y était même pas rendu lors de son premier mandat. Mais subitement, le voilà qui s'intéresse à l'Afrique du Sud d'une manière pour le moins agressive. Nous allons le voir avec vous, François Soudan. Bonjour.
Bonjour Catherine.
Jeune Afrique consacre au dernier propos du président américain sur l'Afrique du Sud un article intitulé « Trump, Musk et la coalition des givrés ». Pour vous, François Soudan, Pretoria est une cible qui n'a pas été choisie au hasard, loin s'en faut.
Ah oui, deux mots d'abord Catherine sur le titre, hein, la coalition des givrés, c'est ainsi que le Wall Street Journal qualifie cette sphère complotiste qui gravit dans l'entourage de Trump et au sein de laquelle notre collaborateur Romain Chanson s'est intéressé à ces entrepreneurs de la tech originaires d'Afrique du Sud qui ont en commun une sorte de détestation de l'ANC et du gouvernement de Pretoria. Alors vous avez évidemment Elon Musk qui n'a jamais investi un seul dollar ni fait œuvre de charité dans son pays de naissance et de jeunesse et qui a retiré son entreprise d'un appel d'offres parce qu'il ne supporte pas la loi de discrimination positive en faveur des Noirs. Autre figure de la tech, David Sachs, natif du Cap, nommé tsar de l'intelligence artificielle et des cryptos dans la nouvelle administration Trump. Vous avez Peter Thiel, élevé en Namibie avant l'indépendance et qui est aujourd'hui l'un des plus gros donateurs de Trump. Vous avez l'investisseur Rolf Botha, au nom célèbre puisqu'il est le petit-fils de Pik Botha, le dernier ministre des Affaires étrangères de l'apartheid. Mais aussi dans le domaine des médias, vous avez le propriétaire du Los Angeles Times, hein, Patrick Soon-Shiong, la journaliste d'extrême droite Lara Logan, l'activiste ultra-conservateur Joël Pollack, qui est justement pressenti pour devenir le futur ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud. toutes ces figures controversées de l'entourage de Trump semblent engagées dans une sorte de règlement de compte mémoriel avec leur pays de naissance, sous prétexte de défense des intérêts d'une communauté, les Afrikaners, qui représente moins de 7% de la population sud-africaine, Catherine.
François Soudan, vous consacrez par ailleurs votre éditorial à l'opinion africaine. Que pense-t-on de Donald Trump sur le continent ? L'heure semble être à l'hésitation ou parfois à la fascination, mais peut-on vraiment parler de fascination ?
Alors, il y a révulsion, évidemment, mais il y a aussi fascination, il ne faut pas s'y tromper. Pour la trajectoire personnelle, la réussite financière, la résilience politique de Trump et des prosélytes du putscho-souverainisme en vigueur au Sahel se félicitent de la façon dont le président américain maltraite les ex-puissances coloniales européennes. Et n'oublions pas qu'ils partagent nombre de thèmes de la croisade anti-woke de Trump. Comme lui, ils sont anti-vax, climato-sceptiques, ils fustigent les droits des minorités sexuelles, ce qu'ils qualifient de décadence morale importée d'Occident, et les contraintes de la bonne gouvernance. Pour eux, Trump, c'est un petit peu une aubaine, Catherine.
Dernier point, François Soudan, la diminution drastique de l'aide américaine à l'Afrique, ce qui pourrait d'une certaine manière faire le jeu de la Chine.
Tout à fait. En procédant à la quasi-liquidation de l'USAID, Donald Trump passe à la trappe un vecteur essentiel de l'influence américaine en Afrique. Et ce faisant, il tire les marrons du feu pour Xi Jinping, lequel se présente plus que jamais auprès de ses pairs du continent comme un partenaire rationnel, fiable, stable, porteur d'une offre économique durable et susceptible de prendre le relais au sein des organisations internationales comme l'OMS, par exemple, d'un leadership laissé vacant par le retrait américain. Alors, l'Europe étant par ailleurs trop affaiblie pour représenter une alternative solide, la Chine apparaît plus que jamais en Afrique comme la puissance de recours, Catherine.
Merci François Soudan. Les articles dont vous venez de nous parler sont à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et cet entretien signé Catherine Potet est à réécouter sur l'application RFI Pure Radio. Avant de retrouver Paul Lonsin-Spinelli pour le journal, on vous emmène à Venise, la célèbre ville italienne et son carnaval. Le carnaval de Venise, c'est le titre d'un opéra écrit il y a plus de 300 ans par le compositeur français André Campra. Un texte qu'un duo de plasticiens, performeurs et chorégraphes fait revivre en ce moment sur scène. Ça se passe en France et c'est le reportage culture du jour, signé Carmen Lunzmann.
L'heure est à la fête dans ce carnaval de Venise.
C'est justement le sens de cet opéra de venir casser un peu la grande tragédie lyrique.
La jeune chef Camille Delaforge, à la tête de son ensemble baroque Il Caravaggio, est à l'origine de la recréation de cet opéra-ballet sorti de la plume d'André Campra il y a plus de 300 ans.
C'est un essai d'une révolution dans l'opéra, une commande que le dauphin fait à Campra parce qu'il a envie de trouver une nouvelle forme pour amener la notion de divertissement dans l'opéra.
Masque, ruse et quiproquo, l'intrigue est simple.
Un tel aime un tel qui aime un tel qui aime un tel, ça se finit bien, mais ça faillit se finir mal.
Grâce à l'inspiration du compositeur, cette simplicité devient sophistiquée.
Il vient interrompre tout le temps cette histoire d'amour par des scènes de fête et de danse enflammées.
Une musique en avance sur son temps, selon le baryton franco-mexicain Sergio Villegas Galvin, 30 ans. Il campe le rôle de Léandre, qui a l'embarras du choix entre deux femmes.
Un rapprochement un peu de la sensualité avec du Mozart, par exemple Les Noces ou même avec Don Giovanni. Or, Don Giovanni a été fait un siècle presque après.
Le coup de génie de cet opéra, c'est son audace. Il mêle chant français et chant italien, navigue entre féerie, tragédie et comédie, et convoque un genre nouveau, le théâtre dans le théâtre, où se monte en parallèle un spectacle autour du mythe d'Orphée, peuplé de dieux et de déesses.
Minerve qui arrive en super régisseuse pour mettre de l'ordre sur un décor qui n'est pas fini, ça c'est vraiment dans l'opéra.
Un régal pour les metteurs en scène Yvan Cléda et Coco Petit-Pierre. Ils s'amusent à mettre en question le genre de l'opéra-ballet en remplaçant les danseurs par les polichinelles, inspirées des peintures vénitiennes du XVIIIe siècle.
Dans les tableaux de Tiepolo, les polichinelles sont traditionnellement représentées avec un nez crochu, ils sont ventrus, ils sont bossus, ils mangent beaucoup de gnocchi, ils défèquent aussi, pas mal. C'est une sorte de meute, un peu grasse-bouille, mais en même temps très tendre. Ils ont une sorte d'étrangeté, un peu comme des anges gardiens.
Tout en blanc et omniprésent, endormi ou envahissant, ces polichinelles apportent une poésie et un humour fantasque au spectacle qui se déroule dans un décor modulable avec des boules suspendues comme des planètes et des arcs en bois rappelant des ponts vénitiens.
Nos références, ça a été de travailler sur la période du carnaval, c'est-à-dire du 18e avec la Commedia dell'arte, mais avec notre touche à nous, les couleurs de Venise, les velours, la passementerie.
Glands dorés géants et costumes en motif de losange en font des tableaux hypnotisants. Une mise en scène comme une œuvre d'art et une musique pour célébrer les joies de la vie.
Voilà, le carnaval de Venise sous la baguette de la jeune chef Camille Delaforge continue sa tournée à travers l'Hexagone jusqu'au 6 avril. Il faut tout de même aimer la musique baroque. Et c'est ainsi que s'achève cette demi-heure d'information africaine. Bientôt 5 heures ici à Paris. Cette édition réalisée et préparée avec Laurent Hérault et Édouard Dupénoit. Merci à eux, merci à vous de nous avoir écoutés. Dans 30 secondes, le journal sur la Radio du Monde.
L'épopée des musiques noires.
Berceau incontesté du jazz, la Nouvelle-Orléans nous offre un virtuose d'exception. Sullivan Fortner, récemment primé aux Grammy Awards, nous convie à une odyssée musicale avec Southern Nights, œuvre magistrale célébrant l'héritage louisianais. Une réinterprétation sublime des musiques noires, où le génie du pianiste transcende l'art de ses illustres prédécesseurs, à découvrir avec Joe Farmer dans l'épopée des musiques noires, tout à l'heure à 13h31.
RFI.